Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue sur la saison 2 du podcast Le futur, c'est maintenant. Pour cette nouvelle saison, je vais aller à la rencontre d'acteurs majeurs en France, mobilisés pour l'éducation, l'insertion professionnelle et l'innovation RH. Un seul objectif, leur donner la parole le temps d'une heure pour faire rayonner leurs initiatives en faveur de l'emploi. Je m'appelle Paul Foutrel, je suis entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Grim. Et comme vous le savez déjà, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, avec un brin de technologie. Je vous souhaite évidemment une belle écoute. Salut Dario.
Salut Paul.
Bienvenue sur cet épisode.
Merci.
On est aujourd'hui à chez Station F.
Super.
C'est un des premiers épisodes qu'on fait avec une petite prise vidéo, donc je suis très content. Merci d'être venu jusqu'à moi. L'objectif aujourd'hui, si ça te va bien, c'est qu'on puisse en savoir un peu plus sur toi, Dario, qui tu es, ton parcours. Tu es le fondateur de O'Clock. Donc, d'en savoir un peu plus sur O'Clock, la jeunesse du projet, et puis peut-être tes perspectives d'avenir, tes ambitions, et comment est-ce que tu as structuré O'Clock et comment tu apportes de la valeur aux candidats, étudiants, apprenants, pour les aider à trouver un job dans des métiers qui ont quand même le vent dans le dos, mais voilà, il y a quand même une certaine pénurie de talent en France sur le recrutement, sur les profils tech, surtout sur les profils seniors, sur les profils juniors, pardon, c'est assez dur de trouver chaussures à son pied. Voilà, moi je suis curieux d'en savoir un peu plus sur tout ça. Il me semble que tu n'as pas fait beaucoup d'études.
Non.
C'est ce qui m'a interpellé lorsqu'on a préparé un peu ça, tous les deux. Et comment ça a commencé, du coup, ton cheminement professionnel, Dario ?
Et ça a commencé quand je devais me faire opérer des amygdales, parce qu'on faisait ça beaucoup quand je ne sais pas quel âge tu as, mais moi j'ai 40 ans, et donc, quand, passé mes 7 ans, on faisait ça beaucoup à mon époque. Et à ce moment-là, mes parents, ils m'ont dit, si tu es sage dans l'opération, on va t'offrir un ordinateur. Et ça sortait de nulle part, parce qu'ils n'étaient pas dans l'informatique. Je ne sais pas d'où ça leur est tombé dessus. Et c'était un Commodore 64. Puis on l'a gardé une semaine parce que c'était déjà trop vieux, même à l'époque, il s'était trompé. Et donc on a acheté un Amiga 500 à la maison. Et donc ça a commencé de là. Et je me suis passionné pour cet outil magique.
Ouais.
Personne n'était là pour me former, donc je faisais tout, je bidouillais tout en autodidacte pendant des années. Et de fil en aiguille, c'est devenu ma passion, je dirais, principale, voire exclusive, diraient mes parents. Et ça m'a détourné des études en réalité. Donc, j'étais pas spécialement bon à l'école. Et finalement, je me disais, mais ça me prend du temps par rapport à ma passion. Et j'ai envie de m'investir encore plus là-dessus. Donc, je voulais arrêter en troisième. Et mes parents, ils ont dit, non, t'arrêtes pas, tu continues. Tu continues. J'ai tenu bon en seconde. Mes résultats baissaient. Et puis, au premier trimestre de première, là, je me rappelle, j'avais 1 de moyenne en maths. Et là, c'est bon. Ils ont dit, OK, tu peux arrêter. On arrête les frais.
Comment t'as rebondi alors ?
Mais en fait, je me suis éclaté avec l'informatique. À ce moment-là, j'étais déjà dans le code. J'ai commencé à 13 ans le code. J'étais en même temps sur du réseau, du hardware. Je découvrais Linux. J'étais sur la 3D. Enfin voilà, c'était vraiment très, très large. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Mais j'apprenais dans le numérique et je découvrais. Et puis, on était un peu avant l'an 2000. Et donc, il y avait Internet qui était en train d'arriver, de tout bouleverser, de tout changer. Enfin voilà, c'était une époque géniale à vivre.
Et tu codais quoi du coup
Je codais, à un moment donné avec un ami, je me rappelle qu'on avait codé un petit moteur de jeux vidéo en 3D, c'était hyper ambitieux à l'époque, avec une technologie Microsoft qui n'existe même plus, Chrome Effects, on ne trouve même plus d'infos sur Google quand on cherche, et puis après des sites web, enfin du web facile, voilà, des choses pas extrêmement complexes, mais qui me permettaient de mettre un pied devant l'autre et d'apprendre.
Et tu vivais chez tes parents, c'était où du coup ? Tu étais en France, en Italie, je crois que tu es d'origine
italienne. Ouais, je suis italien, j'ai habité en Italie jusqu'à mes 11 ans. Après, je suis arrivé dans le sud de la France, où je suis resté jusqu'à la vingtaine à peu près. Et après, je suis allé à Paris pour vraiment démarrer la carrière.
Ouais. Donc, tu n'as pas fait d'études dans le sud ?
Non, ben voilà. Donc
j'ai travaillé, quoi.
C'est ça, j'ai un niveau bac-1.
Ouais.
Et voilà, je suis passionné d'entrepreneuriat, de numérique. Mm-hmm. Je dois avoir 9 bulletins de salaire dans mon archive. Tout le reste, j'étais entrepreneur. Je n'ai fait que créer des projets.
Voilà. Et ton premier projet, du coup, ton premier business ?
C'était une petite agence web.
Une agence
web. C'était plus du service numérique, aux entreprises, aux particuliers aussi. C'était un peu plus large qu'une agence web, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 ans parce que je me dispersais un petit peu trop. J'étais juste à mon compte et puis après, j'ai créé une vraie petite agence web à Paris, pour le coup, qui était spécialisée sur la création de sites web entre 2007 et 2012,
à peu près. Et ça, tu l'avais fait en solopreneur ou tu avais des associés,
J'avais un associé au début et après, j'ai continué tout seul. Okay. Ouais. Et ça a été le point de départ parce qu'à partir de là, je me suis rendu compte vraiment de la difficulté à recruter des professionnels du code, du web, des développeurs. Et donc, ça a été dur parce que je n'arrivais pas à recruter. On proposait des salaires qui étaient ce qu'ils étaient. Ça n'arrivait pas au niveau des SS2I, des ESN, comme on les appelait à l'époque. Mais voilà, je trouvais que ce n'était pas dégueu. Et pourtant, ça ne marchait pas. On avait énormément de concurrence entre recruteurs. Et donc, ça a été le déclic. Et à partir de 2012, je me suis plutôt lancé dans la formation pour résoudre ce problème de pénurie et en même temps proposer une alternative à des personnes qui, un peu comme moi, avaient des parcours pas très linéaires.
Ouais, voilà. Parcours atypique, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous un parcours un petit peu atypique.
C'est ça, ouais. C'est ça.
On est moins prendre la même entreprise, la même direction pendant 10-15 ans, peut-être comme nos parents l'ont fait. C'est vrai qu'on est un peu plus volatile dans la société.
Carrément. Dans
la tech.
Dans la tech, c'est beaucoup le cas. Je pense que ça a tendance à se généraliser, ce type d'approche pas linéaire. Mais après, il y a quand même plus ou moins linéaire. Concernant les études, voilà, il y a encore beaucoup de personnes qui font un parcours assez unique en termes d'études, assez linéaire en termes d'études. Et puis, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, il y a une intention initiale. Et puis, il y a des personnes qui se cherchent un peu plus ou qui trouvent pas tout de suite ce qu'il faut, ou alors qui font un petit bout d'études et puis après se réorientent avant même d'avoir avoir terminé ce parcours-là. Et donc voilà, j'avais un peu ça en tête quand on a créé le
blog. Je trouve que c'est hyper inspirant parce que du coup, ça montre quand même certaines qualités. Je pense qu'il faut être assez tenace, il faut croire en ses passions parce que tu as dû allier l'utile et l'agréable, hein, j'imagine. C'est ce qui t'a drivé, ce qui t'a motivé. Et je suis curieux de savoir du coup, c'était quoi les premiers jours de O'Clock pour toi?
O'Clock, ça a démarré par une idée en 2015. L'idée, c'était de dire on peut faire de la formation à distance, mais avec le même engagement, la même interactivité qu'il y a en présentiel. Et donc, il y avait vraiment ce paradoxe, quelque part, que je voulais résoudre. Et j'appelais ça le téléprésentiel. Parce que à distance et puis en présence, voilà. Donc le mot n'existait pas. Maintenant, si tu le recherches dans Google, tu trouves plein d'occurrences. Mais la première, c'est O'Clock qui l'a utilisé. Oui, il y a même une page Wikipédia dessus. Et tu n'en trouves pas. Oui, quand même. Tu n'en trouves pas avant 2016, parce que c'est en 2016 qu'on a créé le site internet, qu'on a commencé à communiquer. Il n'y a pas d'occurrence avant. Bon, c'est un détail, mais en tout cas, le point de départ, c'était ça. Et en fait, le point de départ a duré un an et demi. En fait, il y a eu un an et demi de préparation avant de lancer le premier cours. Parce que la formation en France, c'est quand même extrêmement encadré, réglementé. Et puis, on ne voulait pas faire ça n'importe comment. Donc, il y avait des outils de communication préparés, de la pédagogie, évidemment, des outils techniques. Et donc, tout ça, ça a pris un an et demi avant qu'on puisse lancer. Donc, on était entre associés, entre cofondateurs. Et on bossait à côté, on codait le soir, on préparait les cours, etc. Et puis, en janvier 2017, premier cours. On a démarré.
Avec une première promo d'étudiants.
Et ça, c'était incroyable.
Tu les appelles comment, les étudiants?
Oui, les apprenants. Les apprenants.
Je trouve que c'est plus cool.
Oui, et puis tout le monde ne s'identifie pas avec étudiants, selon l'âge qu'on a. Ouais. Donc, apprenant, c'est plus inclusif.
C'est un petit peu peut-être enfantilisant même d'être un étudiant, un élève.
Pour des personnes qui sont plus âgées, oui, je pense.
Ouais. Donc, c'était une première promo d'apprenants, du coup, chez O'Clock. Oui. Ça s'appelait O'Clock au démarrage.
Oui, ça s'est toujours appelé O'Clock.
Ça vient d'où, d'ailleurs, O'Clock?
O'Clock, c'est parce que il y a cette notion, en fait, de synchronicité dans les cours. Les cours commencent à 9h, à l'heure pile, parce que c'est la formation collective et synchrone. Et donc voilà, il y avait cette notion, on voulait se démarquer finalement de toutes les formations e-learning, MOOC, etc., qui justement n'ont pas de notion d'horaire, c'est leur force aussi. Mais voilà, nous on a des forces ailleurs, et donc on voulait insister là-dessus, sur ce côté synchrone, et puis O'Clock aussi, parce que c'est maintenant, c'est le bon moment de se former, c'est maintenant.
Voilà. Ouais, cool.
Et puis, je me rappelle ce sentiment incroyable d'avoir lancé la toute première promotion qui s'appelait Big Bang. On l'avait appelé comme ça.
Explosion.
Voilà. Et c'est le point de départ. Et je me rappelle, on a terminé les derniers trucs, y compris sur la classe virtuelle qu'on avait développée nous-mêmes la veille à 5h du mat.
Ouais.
Donc c'est, la peinture était très très fraîche. Hein. Ouais. Parlant de, d'esprit entrepreneurial, on était en plein dedans. Je travaillais depuis mon garage, littéralement. Et puis 9h arrive, les apprenants qui s'étaient inscrits, qu'on connaissait depuis quelques mois déjà, parce que les inscriptions arrivaient petit à petit. Donc voilà, on n'était pas surpris, on savait qui allait être là. On ne savait pas si ça allait bien fonctionner, on ne savait pas si on était prêt.
Ouais, beaucoup de doutes quand tu te lances.
Énormément de doutes, on ne savait, même les cours, en fait, ils étaient prêts pour les deux jours suivants, en fait. Mmh. Mais on avait très, très peu d'avance. Et on connaissait très bien le métier, etc. Donc, on était très agiles, mais il y avait énormément d'incertitudes. Et puis, quand ça commence, à 9h, quelques petits soucis techniques, mais on arrive à les résoudre.
C'était comment, du coup, c'était en visio, ouais, avec Skype ou...
Non, on avait développé notre propre logiciel de classe virtuelle.
Ah oui, c'était
d'accord. Et donc, ça aussi, c'était une grosse inconnue. Ça. Est-ce que ça va fonctionner ?
Tu l'avais dev, quoi, avec tes associés ?
Voilà, et on avait une petite USB qu'on avait envoyée par la poste à tous les apprenants. On appelait ça le téléporteur. Maintenant, ça n'existe plus, on fait ça autrement. Et le téléporteur, c'était une clé USB bootable Linux qui contenait, en fait, tout l'environnement préconfiguré pour bien suivre la formation et qui faisait aussi qui était en lien avec la classe virtuelle. Donc, c'est quelque chose qui était assez, assez révolutionnaire pour l'époque, même pour maintenant, finalement. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et donc... l'environnement dans lequel ils bossaient, on le contrôle, comme une salle informatique équipée, en fait, mais à distance. Mm-hmm. Voilà. Et donc, tout ça, on avait fini de le coder la veille, le matin, et donc on ne savait pas si ça allait bien fonctionner. Bon, les tests, on les avait faits, mais bon, voilà, pas vraiment en condition de réel.
Ouais.
Et bon, ça fonctionne. Et à 10h15, 10h30, on dit bon, maintenant c'est la pause. On fait une pause. Voilà.
C'est toi du coup qui donnais le cours aussi ?
Alors moi je donnais pas le cours, mais évidemment j'étais là. Enfin voilà, ouais, on était trois cofondateurs sur la partie pédagogique.
En plus de la fatigue, il fallait assurer le cours. Quand
exactement.
Même.
Moi je donnais pas le cours. C'était mes cofondateurs, mes associés qui donnaient le cours. Et moi j'étais plus sur la supervision technique, la résolution des problèmes techniques, etc. Mais je me rappelle, à 10h30, on a fait une pause. Le cours s'arrête, je monte à l'étage, je quitte le garage, je monte chez moi à l'étage, et là, en fait, j'avais l'impression que les 20 apprenants, ils étaient en bas, en fait, ça avait créé cette notion de présence, ouais, de présence chimie, à distance, ouais. Et ça avait vraiment pris,
ouais.
Et à ce moment-là, en fait, pour moi, c'était la confirmation qu'il nous fallait, à ce moment-là, pour savoir qu'on était sur le bon track,
ouais.
Et voilà, évidemment, il y avait le modèle économique qui n'était pas encore tout à fait confirmé, il y avait encore plein d'inconnus. Mais par contre, la faisabilité, c'est à ce moment-là, à la pause de 10h30, le premier jour, que vraiment j'ai pu dans ma tête mettre une petite case, une petite coche et cocher la case.
C'est le prototype et
c'est ça.
À fond.
Voilà. Okay. Voilà.
Trop bien. Et il y avait combien d'apprenants ?
Tu l'as 20
fait 20, ouais, 20, 20 c'est ça,
ouais,
c'était 20,
ouais.
C'est quand même pas mal.
Et c'est énorme.
Comment t'as été aller chercher ces 20 apprenants parce que t'étais inconnu à cette époque-là ?
C'est ça, on a lancé le site internet en juin ou en juillet, je sais plus, 2016.
Ouais.
Et donc, ça a été le sourcing qui d'accord. s'est fait jusqu'en janvier. On a eu beaucoup de chance parce que... un peu avant le lancement, on a eu plusieurs bonnes nouvelles. On était labellisé Grande École du Numérique très tôt. On était la première école à distance labellisée Grande École du Numérique. À l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, on
avant
était
même,
les premiers.
Peut-être à... les wagons Open Classroom.
Avant Open Classroom, oui, ouais, bien ouais. sûr. Parce que justement, toutes les autres formations à distance étaient plutôt des formations asynchrones. Et nous, on arrivait avec cette différenciation qui a permis de rentrer dans le cahier des charges. Donc ça nous a pas mal mis en valeur, et puis on a remporté aussi un appel à projet avec la région Île-de-France pour expérimenter ce type de formation là
ouais.
Et donc ça nous a bien aidé sur le financement, notamment des frais pédagogiques, donc on a pu avoir des places entièrement financées pour les premières personnes. On allait ouvrir même sans ça, mais ça nous a permis de remplir complètement la première promo.
Quels étaient les retours des premiers apprenants, tu t'en souviens ?
Ouais.
T'avais collecté leur feedback, du coup ?
Ouais, ils avaient des étoiles dans les yeux.
Ouais.
Franchement, c'était... ils étaient...
Tu me disais, c'était 2017.
2017.
Hein, ouais.
Ils étaient conscients d'être des pionniers.
Mmh.
Donc, il y avait ce côté-là qui était très galvanisant. Ils avaient tous des parcours hachés ou des doutes par rapport à leur orientation, etc. Donc, c'était une... c'est une main tendue en fait qui saisissait. Pour beaucoup, la formation était entièrement financée en plus, donc ils avaient conscience de la chance qu'ils avaient finalement de pouvoir bénéficier de cette formation. Et puis ils se disaient, c'est incroyable, je suis chez moi,
ils sont téléportés finalement.
Je suis chez moi, je suis tranquille, ouais. et je suis une formation avec un formateur, je peux poser mes questions en direct, tout le monde nous répond instantanément, etc. Donc ouais, c'était vraiment un démarrage sur les chapeaux de roue.
T'avais un petit examen à la fin de la formation, ou un QCM ou quelque chose ?
Ouais, mais toutes les formations depuis le début sont certifiantes, et donc on fait passer, on prépare, en fait la formation prépare à passer le titre professionnel, un titre professionnel, donc à ce moment-là c'était le titre professionnel développeur web et web mobile.
C'est un titre qu'on appelle RNCP.
RNCP, absolument. Ouais. Il ne nous appartient pas, il appartient au ministère du Travail, donc ce qui lui donne quelque part aussi de la légitimité. Il y a d'autres écoles aussi, d'autres organismes de formation et d'écoles qui forment, qui préparent à ce titre-là. Et donc les personnes se retrouvent à la fin à devoir présenter un binôme de jury, qui sont dans ce cas-là des développeurs professionnels pour cette formation-là, et elles leur présentent un projet, les pratiques du métier, répondent à leurs questions. Tout ça, ça dure une heure et demie. Pour certains, c'est un peu une épreuve, c'est un peu stressant quand même. Moi, je pense que j'aurais vraiment flippé. Moi, j'ai toujours fui les examens. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin, c'est une vraie reconnaissance officielle. Et voilà, et on a un équivalent Bac plus 2 à la fin d'une formation qui dure 6 mois.
Est-ce que tu as gardé contact avec ces élèves, ces étudiants-là? Tu sais ce qu'ils sont devenus
Pas tous. Il y en a plus de 5000 quand même.
Mais bon, c'était quand même assez marquant pour toi, cette première promo.
Exactement. Oui. D'ailleurs, ceux avec qui je veux plus garder le contact, c'était ceux des premières promos. Bien absolument. Sûr, après, ça a été plus de volume, et donc j'ai moins, je les connais moins.
Parce que si tu me partages quelques chiffres de O'Clock aujourd'hui, c'est combien d'apprenants formés? Alors, donc,
plus de 5000, peut-être bientôt 6000. Ouais. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça évolue rapidement. Ouais. Nous sommes 120 collaborateurs, dont une grosse partie dans l'équipe pédagogique, donc nos formateurs et nos tuteurs, qui est une fonction qui est particulière chez O'Clock, qui participe à la formation, et une partie aussi d'intervenants externes que je compte pas, enfin qui sont en plus.
Qui viennent sur certains modules de formation.
Exactement, exactement. Et puis maintenant, on a commencé, on était uniquement sur le métier de développeur, puis maintenant, on s'ouvre aussi à d'autres formations, à d'autres métiers.
Tu peux en citer quelques-unes, quand même,
ça peut intéresser. Oui, bien sûr. Maintenant, on forme aussi au métier de DevOps, au métier de technicien supérieur système et réseau, chef de projet digital.
Ouais, donc, un peu plus large, peut-être.
Exactement. Donc, on reste toujours dans les métiers cœur du numérique. Mais il n'y a pas que le métier de développeur, même si c'est mon métier à l'origine, donc je ne peux pas en dire du mal. C'est un métier super, mais il n'y a pas que celui-là dans le numérique. Et surtout, il ne convient pas à tout le monde, en fait. Il y a des personnes qui seraient... s'il n'y avait que le développement dans le numérique, il y a beaucoup de personnes qui en seraient exclues.
Je ne sais pas, pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon développeur et quel type de profil pour devenir développeur? Parce que je pense que maintenant, ce n'est plus trop le cas, mais à une certaine époque, on avait un peu ce cliché du geek sur son ordinateur, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu stylé quand même de pouvoir coder, créer des sites internet, des applications mobiles, des applications web. Et pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon développeur?
Moi, je vois un effet de balancier, en fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'était réservé aux geeks barbus dans le grenier, etc. Voilà. Et puis, il y a eu un effet de balancier dans l'autre sens. Et à un moment donné, les médias y participaient aussi. Tout le monde pouvait devenir développeur. Et c'est un autre extrême qui n'est pas bon non plus, en fait. La réalité est quelque part entre les deux.
Parce qu'un mauvais dev, c'est aussi... Quand tu fais des... Enfin, voilà, il faut quand même être bien câblé, non, si je ne me trompe pas.
Il faut être curieux. Ouais. Il faut être rigoureux, il faut apprécier la logique. Il faut apprécier le raisonnement logique. Il faut être créatif aussi. Mais alors, pas de la créativité, évidemment, manuelle ou artistique, encore que. Il y a des volets un peu plus visuels dans le métier de développeur. Mais c'est de la créativité... problem solving, en fait, résolution de problèmes, c'est ce type-là de créativité. Et donc, il y a des personnes, quand on donne ces 3-4 caractéristiques qui tout de suite s'identifient, puis d'autres, beaucoup moins. Les personnes font souvent un blocage avec les maths. Donc, ils disent, mais moi, je ne suis pas bon en maths, donc je ne vais pas devenir développeur. Donc là, je reparle de mon 1 de moyenne en première. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire, en fait, d'être bon en maths.
Non, et puis, il y a tellement de métiers différents dans le dev, dans le développement, parce que tu peux faire... Moi, je suis pas trop un expert, mais tu peux faire du front, ce qu'on voit en visuel, tu peux faire du back, ce qui est un peu le cœur de la machine.
Et ça, c'est que le web.
Tu peux connecter des API, il y a tellement de possibilités.
C'est ça. Donc finalement, alors évidemment qu'il y a besoin des maths pour faire des choses bien précises. Et tant mieux qu'il y ait des personnes qui soient très fortes en maths et qui peuvent mettre cette compétence-là. Moi, je considère que, par exemple, quand on a des facilités en langue, c'est utile aussi, quelque part.
C'est comme un langage que tu apprends. C'est vrai que quand tu apprends une nouvelle langue, c'est plus facile d'en apprendre une troisième, une quatrième, une cinquième.
C'est ça. Le code, c'est une langue qui est extrêmement logique, qui a une syntaxe immuable, sans exception, contrairement aux langues parlées, aux français, ouais, etc., qui a beaucoup d'exceptions. Et donc, forcément, le fait de retenir la construction, la syntaxe, la grammaire, par exemple, d'un langage de programmation, c'est utile. Après, ça ne se résume pas à ça. Ça serait un peu réducteur de dire que c'est que ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, disons que ça permet une première approche facilitée quand on a des facilités en langue, par exemple.
Aujourd'hui, quand tu... Merci pour ces petites précisions, et peut-être que certains auditeurs s'identifieront peut-être une future carrière de développeur avec ces qualités-là. Quand tu recrutes un candidat, comment ça se passe chez O'Clock? Comment vous les sourcez? Comment vous les attirez? Comment vous les identifiez? Comment est-ce qu'ils viennent chez vous? Est-ce qu'il y a des tests? Comment ça se passe?
Avant même de parler des tests, nous, on aime bien partager la passion qu'on a pour ces métiers-là, pour les métiers du numérique, les métiers de développement, mais pas que. Et donc, on essaye à notre manière, avec les moyens que nous avons, de communiquer autant que possible sur ces métiers-là, de faire intervenir des experts, des témoignages, etc., des anciens qui ont été formés, qui sont en poste. Et donc, de beaucoup communiquer sur les métiers pour permettre aux personnes de s'identifier, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se censurent et qui se disent « c'est pas fait pour moi ». Il y a une quinzaine d'années, des dégâts qui ont été faits en termes d'orientation, et beaucoup de personnes à qui on leur a dit ne va pas dans ces métiers-là, c'est bouché.
Tu vois, moi, on m'a proposé de faire un métier manuel, et je pense que je rêverais de faire un métier manuel après avoir fait 5 ans de logiciel, tu vois. Mais à l'école, on me disait non, mais Paul, t'es pas fait pour faire des études, tu vois. Bon, moi, j'ai fait des études, mais bon, 4 lycées, un IUT que j'ai abandonné, je sais pas combien, enfin, c'était compliqué, redoublement, j'en passe.
D'accord.
Et c'est vrai que quand t'allais voir le conseil d'orientation, que ça soit au lycée ou dans l'enseignement supérieur, c'était pas évident. Hein. Alors après, je vais cibler personne, mais il y a quelques années, c'était pas évident.
Hein. C'était pas évident. Alors, je jette pas la pierre parce que c'était des métiers nouveaux, c'était des nouvelles disciplines, il n'y avait pas le recul. Et donc, ils étaient méconnus. Mmh. Et voilà, il y a eu un peu de dégâts qui sont faits. Et donc, nous, on le voit aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui ont la trentaine et qui viennent vers nous et qui nous disent ça m'a toujours attiré. Mais que ce soit la famille, que ce soit l'orientation, le système scolaire, etc., m'en a détourné. Voilà, d'une manière. Donc j'ai fait autre chose, mais finalement ça ne me plaît pas. Mmh. Et donc nous, on a d'abord on s'est donné cette mission-là, de les démocratiser, de les faire connaître, d'en parler le plus simplement possible, et de montrer à la fois que le numérique est quand même très ouvert, mais sans non plus tomber dans le cliché dont je parlais tout à l'heure, tout le monde peut devenir développeur, expert en cybersécurité ou autre. Enfin voilà, c'est. Intéressez-vous à ces métiers-là et ensuite vous allez voir si vous êtes vraiment intéressé ou pas, si vous êtes fait pour ça, si ça peut vous plaire. Ben à ce moment-là, on discute et puis après on rentre dans le processus d'inscription qui commence par une simple déjà prise de connaissance, ce qu'on appelle le chemin vers O'Clock. On appelle ça comme ça, on lui a donné un petit nom. Dans le chemin vers O'Clock, il y a plusieurs phases. C'est un parcours. Voilà, il y a la genèse et le rituel. C'est un peu un caractère un peu initiatique. Et donc, dans la genèse, la personne se présente un petit peu et explique un petit peu son parcours, ses attentes, son projet professionnel, etc. Ensuite, le rituel, c'est un petit peu le test de positionnement. Donc là, on va tester les prérequis selon le métier. Dans le métier de développeur, par exemple, c'est la logique, un tout petit peu de compréhension de l'anglais écrit. Oui, c'est quand même utile.
Non, je voulais intervenir parce que quand c'est vrai que, par exemple, nous, avec mon équipe de dev, c'est vrai qu'eux, ils codent et ils commentent en anglais maintenant, mais au tout démarrage, quand on avait un freelance, quand on commençait, on faisait un peu de code en français, en anglais, et puis après, tu cumules ce qu'on appelle de la dette technique et ça devient vite un enfer, si je ne me trompe pas.
C'est vrai, c'est vrai, et puis souvent, les équipes sont un peu mixtes, et puis il peut y avoir des personnes qui ne parlent pas forcément tout français, etc., puis on ne sait pas le projet... par qui il sera repris après.
Qui
peut commencer avec une équipe 100% francophone et ensuite être repris par une équipe mixte ou autre. Donc, c'est quand même utile.
Je t'ai coupé, excuse-moi.
Il y avait un troisième volet, c'est justement des connaissances de base en informatique. C'est-à-dire que on forme pas à l'utilisation de l'outil informatique. Il faut avoir un certain niveau de base. Exactement, il faut être autonome, tout simplement.
Un petit peu de code, c'est en plus, j'imagine.
C'est en plus, on n'en fait pas un prérequis sur des formations de débutants. Après, on a des formations qui présupposent un certain niveau d'entrée, donc qui visent un niveau de certification plus élevé.
Ouais.
Et donc là, on vérifie aussi le niveau de code, sur les formations de code.
Et quand tu dis on vérifie, c'est des entretiens, comment ça se passe? Alors, ça, c'est... des choses un peu gamifiées, des plateformes, ou c'est plutôt des entretiens avec des personnes de ton équipe?
Alors, toute la partie chemin dont je suis en train de parler maintenant, c'est en ligne, et donc c'est des QCM, des formulaires, etc. Donc on est en train de le faire évoluer, mais globalement pour l'instant c'est ça.
C'est déjà bien
fonctionnel. Et ensuite, les personnes, une fois que toutes les vérifications sont faites, deviennent... ou pas, mais souvent, deviennent admissibles. Voilà. Et donc, à partir du moment où elles sont admissibles, elles rentrent en contact avec notre équipe, qui va ensuite faire plus un travail de, voire d'orientation, selon les différentes formations, et ou de montage de dossiers de financement, par exemple, selon le statut de la personne, la formation visée, etc.
Je suis curieux là-dessus, du coup, comment on finance O'Clock? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, l'alternance,
de plein de manières.
J'imagine il y a plusieurs moyens de financer, voilà. Peut-être avec son CPF aussi,
en partie, en fait déjà ça dépend de la formation visée. Donc, une formation continue ou une formation en alternance, c'est pas les mêmes leviers de financement. Le CPF c'est mobilisable sur les formations continues, mais c'est pas mobilisable sur les formations en alternance. Les formations en alternance sont payées par l'entreprise avec l'OPCO, et voilà. Et donc, sont gratuites aussi pour les bénéficiaires, pour les apprenants. Les formations continues sont financées de différentes manières. Et là, ça va dépendre beaucoup du statut de la personne. Si c'est un demandeur d'emploi, si c'est un salarié en poste qui a un projet de reconversion professionnelle, si c'est un jeune, par exemple, qui est inscrit dans une mission locale, si c'est une personne en situation de handicap, à chaque situation, finalement, il y a souvent plus qu'un seul moyen de la financer, mais il y en a plusieurs qui souvent s'auto-complètent entre eux.
Donc, c'est génial parce que peut-être que tu as des apprenants qui ne savent même pas qu'ils peuvent être éligibles à certains dispositifs de financement. C'est une bonne surprise pour
bien
eux.
Bon, en général, quand ils arrivent à ce stade-là, ils ont quand même bien potassé notre site internet et on explique qu'il y a des financements possibles. Mais on ne rentre pas dans le détail parce que ça serait l'enfer. C'est beaucoup trop compliqué de rentrer dans le détail. On leur dit surtout, voilà, passez les premières étapes, passez le chemin. Et ensuite, on fait le point ensemble et puis on vous, en fonction des différents paramètres, on vous propose les différentes pistes de financement qui existent. Voilà.
Si je me projette, moi, Paul, je viens faire une formation chez toi. J'ai passé ce fameux chemin. Je rentre en formation. Comment ça se passe?
Bon, déjà, avec ton nom, Pôle emploi, tu passes pas. tu passes facilement. Non, on va dire que c'est ton
vrai nom. J'ai fait un peu de CSS, HTML il y a quelques années quand j'étais à l'école. Un peu la nuit même d'ailleurs, j'étais un peu addict à ça, j'aimais bien.
C'est vrai, t'aimais bien?
Mais après, j'ai fait plus du no-code parce que ça allait plus vite de faire, tu sais, de construire des choses avec des blocs. Mais sinon, j'ai pas fait.
C'est super, le no-code ou le low-code, c'est vraiment toute une branche qui existe déjà depuis quelques années et sur lequel on va également participer à la formation.
Je pense qu'il y a un truc à faire, même dans la formation, sur des petits projets, des choses comme ça. C'est fou à quel point tu peux lancer un prototype, résoudre un problème.
Alors, il y a les prototypes, mais après, il y a aussi des projets, souvent des outils d'automatisation interne, qui sont très, très utiles aussi dans les entreprises, qui permettent des gains de productivité.
Carrément.
Et ensuite, on peut aller même plus loin que le prototype. Et souvent, ça dépend de la nature du projet, mais il y a des choses tout à fait... De qualité professionnelle qui peuvent être faites, c'est sûr.
Si je reviens à ma question, je suis rentré chez O'Clock.
T'es rentré chez O'Clock, donc on va identifier avec toi, selon ta situation, le profil. Admettons que tu es demandeur d'emploi. À ce moment-là, on va évidemment te conseiller d'aller voir ton conseiller pour l'emploi, lui dire que tu as un projet de formation. Avant tout, parler du projet professionnel. C'est vraiment ça la clé, en fait. C'est pas je viens vous voir parce que je veux que vous me payiez cette formation-là. Ça, c'est le meilleur moyen de braquer le conseiller pour l'emploi.
C'est clair.
Le conseiller pour l'emploi, il a avant tout pour mission de qualifier le projet professionnel.
C'est un bon conseil que tu donnes, là, je pense.
Ouais, il y en a un certain nombre, je vais pas tous les donner maintenant. Mais
c'est un bon conseil d'aller voir même son conseiller pour l'emploi et lui dire voilà mon projet professionnel, j'ai besoin de passer par telle formation, est-ce que vous pourriez m'aider ? Plutôt que d'arriver en disant j'ai besoin de sous.
Exactement.
C'est un peu comme un candidat qui va avoir une entreprise, j'ai besoin de sous pour financer mon
école. Vous payez combien
Voilà. Et au lieu de dire j'ai telle compétence et ça me fait plaisir de vous rejoindre parce que j'ai tel projet pro.
C'est ça, oui, tu peux faire un parallèle.
Je me permets d'insister là-dessus parce que je l'ai trop souvent vu.
Oui. Et après, on s'étonne que les conseillers pour l'emploi peuvent être un petit peu froids ou pas forcément à l'écoute, etc. Mais ça dépend aussi de comment on aborde la relation.
Tout à fait.
Et bon, nous, ça, c'est des éléments qu'on donne, par exemple, à nos admissibles qui sont à ce stade. Et voilà, donc on arrive à ce stade-là, et donc le projet, il se construit. Souvent, le conseil pour l'emploi va demander à réaliser une immersion, une immersion facilitée. L'ancien nom, c'est la PMSMP, quelque chose comme ça. Bon, voilà, un peu compliqué. Ouais, terrible. Une semaine, en gros, c'est une sorte de pré-stage qui dure une semaine et qui permet de vraiment tester le métier. Donc, c'est un peu surprenant pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Ça tente pas de voir faire ce truc avant de rentrer en formation. Mais finalement, c'est plutôt pas mal. Ça oblige déjà à contacter quelques employeurs dans son coin. Et puis à passer une semaine à côté des personnes qui font ce métier, qui font le métier visé.
Un peu comme le stage de troisième.
Ça
existe toujours, mais...
Ça existe, oui, je crois que ça existe toujours.
Mais c'est bien. Nous, on a accueilli une fois une personne en développement aussi, comme ça, sur une semaine. Et je trouve que c'est bien parce que... En plus, c'est pas trop lourd d'un point de vue ressources pour une entreprise. Tu accueilles quelqu'un, elle se met en binôme avec une personne, elle est en observation, et puis
c'est super. C'est ça. C'est ça. Et voilà, et puis après, une fois que le projet est validé, on rentre dans la question, on rentre dans le dur de la question du financement. Donc, est-ce que c'est Pôle emploi qui finance en intégralité? Ça, c'est assez rare. En général, c'est un cofinancement, c'est une partie. Et puis voilà, le reste peut venir de différents autres financements, dont le CPF aussi, qui peut être mobilisé. Voilà, et puis y a une date qui est posée d'entrée en formation, une fois que toutes les questions ont été vues. Il y a la question du matériel aussi, parce que comme les personnes suivent la formation à distance, on s'assure qu'elles aient le matériel pour bien suivre la formation.
Du coup, tu dois avoir un petit contrat avec une boîte pour du leasing de matériel. Comment ça se passe?
Non, ça serait trop compliqué. Non, en général, les personnes sont quand même déjà souvent équipées, mais il leur manque des petits bouts. Nous, on leur demande par exemple d'avoir un deuxième écran. Donc ça, souvent, ça leur manque. Et donc, c'est de l'équipement supplémentaire qu'ils doivent acheter. Des fois, il y a des aides à l'équipement selon les régions. Dans les régions, souvent, en Ile-de-France, par exemple, il y a des aides à l'équipement pour les personnes qui suivent des formations financées par la région. Donc voilà, on donne tous les tuyaux, on s'assure que les personnes aient le bon matériel. Et ensuite, la formation commence.
C'est la rentrée.
Et voilà, il y a le petit stress de la rentrée, comme d'habitude, comme pour tout le monde.
Un petit mot de Dario, peut-être, sur chaque promo, ou est-ce que tu
Je me suis dit cet été que je devrais le faire, mais non, pour l'instant, je ne le fais pas. Ça te semble une bonne idée?
Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu vois, j'étais avec Cyril de Rocket School hier.
Lui, le fait
disait, il l'a fait quasiment pour chaque promo. Il s'est déplacé dans chacun de ses campus.
Ah ouais, en plus, en présentiel. Moi, je n'ai pas d'excuse, c'est à distance.
Il me dit qu'il fait... Pardon. Qu'il fait un peu moins maintenant, parce que je crois qu'ils ont 8, 9, 10 campus, j'ai oublié le nombre de campus, mais ouais, effectivement, ça serait pas mal, le petit mot de Dario.
Ok, bon, écoute, je prends la décision tout à l'heure, mais si je le fais, ça sera grâce à toi aussi.
Non, mais je pense que les apprenants, les étudiants sont aussi curieux de savoir qui est derrière l'organisation.
Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut quand même faire assez court parce que finalement, qui est derrière, c'est une équipe, quoi. C'est pas Dario, c'est une équipe pédagogique avec des formateurs, des responsables, toute une équipe support, etc. Donc, des fois, je vais un peu à contre-courant aussi de cette personnification, tu vois. Ça va.
Ouais, ça va, j'ai bois de l'eau, peut-être pris froid, c'est du direct. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est toute une équipe, mais quand même, tu vois, t'as lancé le projet avec tes associés, et puis bon, t'es un peu c'est toi qui vas peut-être discuter avec la presse, t'as dû faire une levée de fonds, si je ne me trompe pas. C'est un petit plus, je trouve. Moi, je pense que j'aurais fait un petit mot
pour démarrer.
Okay. Tu pourras essayer.
On va essayer.
Cool. Et du coup, après, on est sur une formation en plusieurs mois. Il y a plusieurs rentrées ou c'est au mois de septembre?
À plusieurs rentrées. On a vraiment tout au long de l'année, on a quasiment des rentrées tous les mois, selon les formations, selon les... C'est toujours des rentrées, c'est toujours des formations date à date. On sait quand on rentre, on sait quand on sort. C'est pas de l'entrée-sortie permanente comme c'est souvent le cas sur les formations à distance.
D'accord.
Voilà, donc c'est vraiment des rentrées avec après selon la formation, à la fin il y a souvent une phase projet, préparation à la certification, donc ce dont je parlais tout à l'heure, le titre professionnel. Et voilà, ensuite la formation se termine et commence ensuite une partie centrale qui est on se forme pas pour faire plaisir, ça peut faire plaisir aussi,
on forme pour trouver un job.
Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ancré enraciné dans nos valeurs.
Bien sûr.
Et donc ça a toujours été un focus. Alors on l'a beaucoup fait au début avec les moyens du bord, mais avec toujours, enfin voilà, qu'on le structure ou qu'on le fasse avec les moyens du bord, l'important c'est quand même le résultat, la finalité, et de donner aux personnes qu'on a formées, à qui on a transmis des compétences techniques et aussi des soft skills, des clés pour accéder au premier job dans ce domaine-là. Et donc, on ne promet pas la lune, on n'est pas, par exemple, sur tout ce qui est emploi garanti ou promettre des salaires mirobolants, etc. Ouais. Donc, on a un discours de vérité là-dessus.
Pourtant, c'est des métiers qui peuvent très bien payer.
Alors, très souvent, statistiquement, les personnes connaissent quand même une augmentation de salaire quand elles accèdent à la plupart des métiers du numérique. Après, ça dépend d'où elles viennent. Certains pouvaient avoir des responsabilités aussi. Donc, certains acceptent même une diminution de salaire pour rentrer dans le numérique. Ça arrive aussi, mais c'est un peu l'exception. Mm-hmm. Donc, oui, tu as raison. Les salaires sont généralement bons. Mais il y a suffisamment de personnes qui le disent pour que nous, on ne fasse pas un effet de résonance et d'écho autour de ça qui peut être déceptif. Parce que souvent, le premier job, quand même, il faut faire un peu preuve d'humilité dire qu'on commence par un poste qui n'a pas forcément des énormes responsabilités. On a encore beaucoup à apprendre quand on sort d'une formation, que ce soit une formation de 6 mois, de 1 an, de 1 an et demi, avec tout ou partie en alternance. On reste quand même encore une personne qui est en besoin d'expérience, en besoin de pratique, etc.
Mais tu as raison de le souligner parce que, tu vois, bon, je prends peut-être les écoles de business, de management, mais souvent, toi, tu es étudiant, tu as cette croyance de finir ton école de business, de management et de devenir manager avec un salaire mirobolant.
Oui. Mais les écoles, elles entretiennent ça.
Je pense que c'est un vrai fléau, c'est une opinion personnelle, mais je l'assume. Pour avoir fait plusieurs écoles de commerce. Et après, tu arrives sur le marché du travail et puis tu vas demander ton package à 60K avec 3 collaborateurs à manager.
Attends, on va t'expliquer comment ça fonctionne.
Voilà. Tu vas commencer ta période d'essai comme tout le monde. Tu vas commencer, si tu veux faire du commerce, prendre le téléphone. Si tu veux faire du dev, tu vas commencer par prendre quelques tickets et développer. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut, il faut le préciser quand même. Parce que...
et voilà, donc l'humilité, ça fait aussi partie de nos valeurs. Donc c'est quelque chose qu'on essaye aussi de transmettre. Voilà. Tout le monde ne comprend pas. Donc après, il y a peut-être des personnes qui sont surprises et qui se disent « Ah, mais je ne comprends pas, j'ai pas un boulot en claquant des doigts comme ça en sortie de formation. » Ben oui, mais regarde, où est-ce qu'on a dit ça dans notre site internet? On n'a jamais dit ça. Donc c'est un discours qui est entretenu. Donc ce n'est pas étonnant que certains s'en emparent. Ouais. Mais voilà, il faut, en sortie de formation, il faut aller chercher des offres d'emploi. Donc ça, c'est la base, c'est classique. Préparer le package de CV, portfolio, projet réalisé, etc. La base aussi. Il faut surmonter le syndrome de l'imposteur.
Ouais, avoir de la confiance en soi.
Exactement. Voilà.
C'est une des plus belles qualités, je pense.
Parce que la confiance en soi, elle ne vient pas d'un sentiment de toute puissance « je sais tout, je maîtrise tout ». Non, la confiance en soi, on la développe en contradiction quelque part à un sentiment qui est tout l'opposé, qui est ok, je sais 2-3 trucs, mais est-ce que ça suffit? Donc voilà, ce syndrome de l'imposteur. Donc la confiance en soi, une de nos missions, c'est d'essayer de la transmettre aux personnes, alors même qu'on sait qu'elles ne sont pas en situation de toute puissance et de tout connaître. Voilà.
Mais la répétition, l'expérience, le fait de faire des choses, ça crée de la confiance en soi aussi. Et du coup, après, tu arrives sur le marché du travail. Tu es un peu plus confiant parce que tu sais que par exemple t'as déjà fait 2-3 sites internet, t'as déjà fait des choses.
Ouais, mais souvent ça suffit pas. Souvent ce syndrome de l'imposteur il est quand même encore là. Il s'estompe sur le poste en fait. Il s'estompe quand on commence à recevoir les premiers bulletins de salaire. Et encore, au premier bulletin de salaire, on se dit est-ce que je vais passer la période d'essai?
Ouais.
Voilà, donc il s'estompe très progressivement, je pense, au cours de la première année, en fait, en poste. Et donc, il y est au début.
Moi, on m'a souvent dit que quand tu arrives dans ton nouveau job, il faut à peu près 6 mois pour que tu sois opérationnel.
Voilà.
Pourtant, une période d'essai, aujourd'hui en France, c'est quoi? 3 ou 4 mois, si je ne me trompe pas?
Ça dépend du statut. Entre 1 et 3 mois, je crois.
C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même, faut aussi être rassuré de se dire, bon, c'est un premier job, je vais faire mon maximum. Et puis peut-être se dire, bon, à 6 mois, il faut vraiment que je sois hyper opérationnel parce que je me suis donné le temps. Hein.
C'est ça.
Et vous les accompagnez du coup sur cette recherche d'emploi un petit peu?
Oui, bientôt avec Grimp. Ouais, bientôt mieux que ce qu'on a fait jusque-là.
Disclaimer, comme on dit en anglais, c'est vrai qu'on bosser ensemble, c'est super.
Oui, oui, mais j'ai hâte parce qu'à la fois, c'est pour nous, c'est vraiment cœur de mission. Et à la fois, disons que c'est pas cœur de mission, c'est pas cœur de métier, mais c'est dans nos valeurs. Voilà.
Bah, bien sûr, avoir un diplôme, c'est bien, trouver un job, c'est mieux,
voilà,
finalement.
C'est ça. Et donc, j'ai trouvé super intéressant de commencer à travailler ensemble parce qu'on. On vient répondre mieux que ce qu'on a réussi à faire jusque-là, je trouve, je pense, j'espère, avec une approche qui est très structurée, très professionnelle.
Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu de méthodo de trouver un travail. Il y a quand même, comme tu disais tout à l'heure, des outils, son CV, sa manière de candidater, sa gestion des entretiens, le fait de bien s'organiser. Voilà, il y a toute une méthode et qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Pourtant, c'est fondamental parce que tout au long de sa carrière, on va devoir changer de travail, on va devoir recruter des gens, on va peut-être se faire licencier malheureusement, on va perdre de la confiance en soi, il va falloir repartir au combat. Et c'est vrai que d'être un peu formé là-dessus de manière connexe à son école, là, je trouve que c'est quand même hyper important. Et même si Pôle emploi, je trouve, fait des choses super, super intéressantes, et c'est quand même de mieux en mieux, les missions locales aussi également, mais il faut aussi profiter de tous ces acteurs existants. Il y a plein d'outils disponibles sur le web, et même au sein de son école, on a plein de... Tu vois, même ne serait-ce que de créer du lien avec les apprenants, entre le professeur, le coach et l'apprenant, de manière humaine, parce que tu vois, la technologie que nous, on a créée chez Grimp, elle est au service de l'humain et pas l'inverse. C'est hyper important et c'est dans nos...
Et nous, on a justement beaucoup d'humains chez O'Clock, et on a notamment, je vais essayer d'oublier personne, mais on a notamment 4 équipes qui jouent un rôle central dans le parcours d'apprentissage, le formateur, évidemment. Le tuteur pédagogique, qui est plus en individualisation, en soutien de l'action du formateur. Et on a aussi les chargés de relations entreprise.
Oui, voilà. Pour trouver des partenariats.
Exactement. Et qui font notamment aussi tout le travail de placement en alternance, etc., pour les formations d'alternance. Et donc de lien entre l'entreprise et les candidats. Et un autre métier qu'on appelle le conseiller parcours apprenant, vient vraiment quelque part remplir les différents trous dans la raquette qu'il peut y avoir sur une expérience en termes de toutes les difficultés que la personne peut rencontrer pendant sa formation, qui ne sont pas vraiment en lien avec la formation, mais qui peuvent quand même être des cailloux dans la chaussure, et toute la partie préparation à la certification, préparation à la recherche d'emploi, etc. Et avec ça, plus un outil comme Grimp, ça fait, je pense, beaucoup de moyens humains, techniques, au service de cette finalité-là, qui est l'accès et le retour à l'emploi.
L'idée, c'est que ça soit hyper vertueux, que ça fonctionne en symbiose, c'est ça qui est important, parce que, en plus, sur une organisation comme ça, en full remote, comme on dit, en 100% télétravail, je pense que tout n'est pas rose. Des fois, ça doit être compliqué, là, la partie RH, de créer du lien entre les collaborateurs et...
Ouais, ça, c'est encore un autre vaste sujet. Je ne sais pas combien de temps il reste.
Non, mais...
On va peut-être pas l'ouvrir.
Mais du coup, c'est vrai que, tu vois, il faut avoir les bons outils, les bonnes pratiques, les bonnes valeurs. Je pense que ce que tu as créé avec O'Clock, ça va demander beaucoup de travail et un peu de pivot et d'agilité, non, si je ne me trompe pas.
Absolument, et d'autant qu'on a commencé en 2017, et donc c'était avant le Covid, et donc quand toute une entreprise en télétravail, au début on se comptait avec les doigts d'une main, mais petit à petit on a augmenté l'effectif, et rapidement en fait on s'est retrouvé à effectivement devoir découvrir et parfois inventer par nous-mêmes des modes de collaboration à distance, avant même que... la société s'empare en fait du sujet. C'était un sujet de niche avant 2020.
La pandémie Covid arrive et que tout le monde se dise allez, passe tous en 100% télétravail.
C'est ça.
Vous l'aviez déjà fait.
D'un côté, c'est plus facile.
Vous étiez à peu près.
Alors oui, on était préparé à ça. Après, personne n'est préparé à travailler avec les enfants à la maison quand même. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais moi, c'était une épreuve. Hein. C'était...
Ça ne devait pas être ça. Surtout en bas âge peut-être.
Et en bas âge. Voilà, ils avaient le pire âge possible pour cette configuration-là. Et pour nos formateurs, c'était compliqué aussi. Enfin voilà, pour toutes les personnes dans l'équipe, c'était compliqué. Donc oui, on était un peu plus préparés que d'autres, mais ça a quand même été une épreuve. Et puis, pour nous, c'est un peu plus facile, je trouve, d'être aussi 100% en télétravail. Toute l'équipe est en télétravail, plutôt qu'avoir des organisations hybrides. En tout cas, il y a plus de questions à se poser, plus d'adaptation, des rituels managériaux, etc. Quand il y a de l'hybride, plutôt que quand on est tous en télétravail. Quelque part, on est tous logés à la même enseigne. Ça n'avance pas à deux vitesses, quelque part.
Voilà. Mais vous faites quand même des séminaires d'équipe ou des choses pour vous voir.
Oui, absolument.
Et est-ce que vous faites des petites rencontres avec les alumni, les apprenants, les...
Et, c'est déjà arrivé. Eh bien, on en fait, mais de manière, on en a fait jusque-là, mais de manière assez ponctuelle, mm-hmm. plutôt à l'opportunité, sur des salons, par exemple. Où, moi, à plusieurs reprises, il m'est arrivé, si je vais en vacances quelque part, j'envoie un petit mot dans la communauté des alumni et je lui dis je suis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir prendre un café ? Il y a toujours 6 ou 7 personnes qui se réunissent. Et surtout, 5, 6 000 personnes. J'anticipe pas du tout, donc j'envoie ça généralement la veille. Et donc là, on va essayer de le faire de manière un peu plus régulière, un peu plus structurée. Ouais. C'est important.
C'est quoi les valeurs d'Oclock, du coup ? Est-ce que tu en as un peu parlé tout au fil de...
Ouais, alors je ne suis pas très bon dans cet exercice-là. C'est quelque chose
que tu avais défini au démarrage de ton entreprise ? Est-ce que tu t'es dit, tiens,
les valeurs de la boîte ? Pas du tout au démarrage. Non, pas du tout au démarrage. Pas du tout au démarrage, c'était implicite, informel, ouais. Voilà. Ensuite, on a fait un travail avec l'équipe pour les expliciter, mais tu vois, je ne m'en rappelle même plus, en fait. Okay. Je m'en rappelle plus, non pas qu'elle soit pas bonne en fait, et pourtant on a passé un jour ou deux sur le sujet, mais quelque part, moi les valeurs, j'arrive pas à les résumer par un mot, quoi. Ouais. Voilà. Ou alors faut que je fasse l'effort. Pour moi, c'est quelque chose qui se vit, c'est plus que quelque chose qui se, dit ou qui. Voilà. Je vais savoir te dire, par exemple, l'accès ou le retour à l'emploi, oui, ça c'est dans nos valeurs. Ça c'est. Voilà. Je sais pas comment le résumer en un mot, faut peut-être que je fasse l'exercice, mais voilà. C'est dans nos valeurs.
Et la mission que tu t'étais donnée avec Oclock au démarrage, et où est-ce que maintenant où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu finalement tout s'est passé un peu comme prévu ou il y a eu quelques surprises ?
Globalement, je peux pas dire qu'on ait eu énormément de surprises quand on dézoome un petit peu, qu'on regarde le chemin parcouru. Évidemment, c'était pas linéaire. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, on a réussi à faire un peu ce qu'on voulait. Maintenant, c'est pas du tout l'intégralité du projet. On a l'intention d'aller plus loin, d'explorer d'autres axes en lien avec la formation et l'emploi, toujours. Ouais. Mais voilà, on n'a pas fait le tour du sujet. Quelque part, on a fait la grosse partie de validation du MVP.
Ouais, alors là, c'est un MVP, comme
ouais,
on dit. Là.
Ouais. Enfin, le MVP, on l'a fait. Ensuite, on l'a industrialisé, quelque part. Et maintenant, en fait, il y a tout un volet de diversification qu'on veut actionner. Diversification à la fois de l'offre de formation, parce que jusqu'à il y a encore quelques mois, nous ne formions que au métier de développeur.
Ouais.
C'était extrêmement focus sur ce métier-là. Donc, diversification par le lancement de nouvelles formations, diversification aussi sur les modalités de formation, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne répond pas forcément aux besoins de tout le monde. Donc, on a une de nos valeurs, c'est aussi d'essayer de proposer une formation la plus accessible à tous et donc inclusive. Mmh. Or, bah, une formation, même si c'est à distance, mais avec des horaires imposés, etc., ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc, on est en cours de réflexion et d'exploration aussi de modalités complémentaires ou alternatives. Diversification de marché, ça n'est qu'en France, mais voilà, il y a plein d'opportunités pour aller au-delà de la France aussi, et donc ça, c'est des sujets qu'on regarde de près.
Parce que cette ambition, elle est un peu en lien avec ton rêve chez Oclock, j'imagine, parce qu'il y a du lien entre comment tu t'es projeté, le rêve initial et ses ambitions. Parce que toi, tu vois comment le
rêve, au-delà de la différenciation. Tu m'as demandé la mission. Alors là, pour le coup, la mission, je l'ai bien formalisée en une phrase et je la connais, c'est démocratiser les compétences numériques grâce à des formations innovantes et accessibles au plus grand nombre.
Ouais.
Accessibles au plus grand nombre. Donc, je suis très, très content déjà d'avoir pu contribuer à former plus de 5000 personnes en France.
Ouais.
Mais voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et en France, sur d'autres métiers, avec d'autres modalités, pour répondre à des contraintes, des besoins spécifiques différents, et en dehors de la France. Donc, oui, pour moi, le rêve, il ne s'arrête pas là. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, ça y est, on a terminé.
Je comprends. Une dernière question à te poser, parce qu'en plus, je vois qu'il y a des personnes qui attendent devant la salle.
Ouais, ça, je suis trop bavard.
Non, mais c'est moi aussi. Je suis très curieux. Du coup, le podcast, tu vois, c'est la question que j'aime bien poser à chaque fois. Il s'appelle Le Futur, c'est maintenant. C'est quoi pour toi, Dario ?
Le futur.
On a parlé un petit peu quand même.
Ouais, mais le futur, pour moi, c'est un futur où coexistent différentes modalités de formation qui se complémentent, parce qu'on est tous très différents.
Ouais.
Et... il peut pas y avoir, Oclock ne sera jamais, enfin le modèle de Oclock en téléprésentiel, etc., conviendra jamais à tout le monde, donc il faut d'autres modèles aussi. Peut-être que nous on va diversifier nos modalités, mais il faut aussi que d'autres écoles se spécialisent sur d'autres modalités. Et donc pour moi le futur c'est vraiment une mosaïque d'offres pédagogiques, Et je pense que l'IA a un rôle important à jouer là-dessus, pour personnaliser les formations, pour s'adapter, pour répondre à des besoins spécifiques. Et donc voilà, pour moi, le futur, c'est un futur dans lequel tout le monde peut trouver chaussure à son pied, tout le monde peut se sentir pleinement efficace, productif dans son projet de formation, avec O'Clock ou avec une autre formation. Voilà, on participe tous à un projet sociétal et collectif et on en fait partie.
Hyper inspirant. Super, merci Dario, ce sera le mot de la fin.
Super, merci. Salut. Paul.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.